Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour cette heure de radio. Tous les soirs on reçoit dans Par les temps qui courent les artistes qui sont dans l'actualité culturelle pour une heure, et ce soir avec la réalisatrice Anna Pitoun.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du pété.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. La femme qui dit cette phrase s'appelle Salcuța Filan, mère de famille rome, venue de Roumanie, vivant en France à Achères, dans les Yvelines, et que vous filmez Anna Pitoun avec Valérie Mito pendant 15 ans. Dans le montage, l'image qui suit cette phrase, c'est la statue de la République, à Paris, près de laquelle elle marche, avec son fils Gabi. Alors peut-être la République française ne fait-elle pas complètement bien son travail ? De l'attachement essentiel des enfants pour l'école, aux évacuations policières, des mariages, aux premières naissances, des caravanes, aux appartements HLM, des engagements associatifs et politiques à l'emballement médiatique anti-Rome, votre film 8 Avenue Lénine regarde sur la longueur et à travers le visage précis d'une femme tenace le sort réservé à ses familles en France. Il est en salle actuellement. Bonsoir Anna Pitoun.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. C'est donc, je le répète, un film réalisé à deux avec Valérie Mito. Donc avec laquelle on converse silencieusement ce soir. Je dis qu'il est en salle en France, mais il y a aussi tout un programme de rencontres et de débats qui réunissent qui ?
Alors, plein de gens d'horizons très divers, des réalisateurs, des gens d'associations, des gens qui se battent depuis des années et des années sur la question, alors maintenant on appelle ça la question Rome, mais sur la question de l'intégration, sur la circulation en Europe. Est-ce qu'on va pouvoir circuler ou non ? Donc il y a des historiens, des journalistes, plein de gens qui nous rejoignent avec Valérie pour, à la suite des projections, réfléchir ensemble et avec le public. Le public intervient beaucoup, donc voilà, il y a plein de gens qui viennent nous donner leurs espoirs, leurs doutes, livrer toutes ces choses voilà, au reste de la population.
Et c'est un programme qui va durer quoi, jusqu'au début 2019? Vous allez prôner comme ça le film
absolument.
En France?
Absolument. Ouais, on a plein de dates encore, janvier, février, mars. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont filmées et on met ça sur notre site internet parce que les réactions sont tellement fortes qu'on a vraiment envie de les partager. Il y a des Roms qui sont là, qui viennent pas souvent au cinéma, des Roms d'origine roumaine qui nous rejoignent pour les débats. Donc on filme tout ça, on documente tout ça pour qu'il y ait une trace de cette prise de parole. Citoyenne.
D'autant plus intéressant que le film dont il est question ce soir, c'est vraiment aussi l'idée de la constitution d'une trace, puisque le temps et le temps qui s'écoule est une notion extrêmement importante. On commence avec quasiment un des débuts.
Entrez, oh, c'est la maman.
Comment ça va ?
Bonjour.
Ça va ?
Non, ça va pas.
Alors, et qu'est-ce qui s'est passé ce matin alors ? Le maire, il est au courant ? Vous avez appelé le maire ?
Non. Parce que je viens tout de suite là à l'école pour vous dire qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour les enfants, pour la police de gérer la camp.
Bon, on va appeler tout de suite le maire.
La police m'a dit que toutes les personnes parties, tous les jours viennent. Déjà, elle est partie pour venir avec voiture grande pour tomber tous les caravanes.
Il y a combien de policiers là-bas ?
C'est deux voitures.
Deux voitures de policiers ?
Oui, pour regarder casser la caravane.
Après, casser les caravanes déjà ?
Non. Dis qu'après, viens pour casser les caravanes.
Vous essayez d'en savoir plus ? Qu'est-ce que vous voulez que j'accompagne la maman de Gabi à la mairie pour vous retrouver ou quoi ? Donc, on va aller à la mairie, on va aller voir le curé. Est-ce que vous êtes passé voir monsieur le curé ?
Oui.
Le père Frédéric ? Vous êtes allé voir le père Frédéric ?
Non.
Non ?
Bon, on va y aller.
Alors je dis que c'est l'un des débuts de ce film parce qu'en fait il commence en deux temps avec des images faussement passéistes, noir et blanc, où on voit les enfants qui jouent et petit à petit des enfants qui vont s'exprimer sur leur attachement très fort à l'école. Et quasiment tout de suite après, on est directement aux prises avec les problématiques des expulsions à venir et cette expulsion annoncée à l'école où une femme, mère de famille, vient prévenir de l'expulsion à l'école avant d'aller tout à fait autre part. Pour vous, c'était évident, Anna Pitoun, que d'emblée, on aurait ces deux points-là de l'arc, à la fois l'école, les enfants et l'expulsion?
Et non, pas du tout. En fait, à dire vrai, ce début dont vous parlez, qui est ce début en noir et blanc, c'est la trace du premier film qu'on était censé faire là-bas. C'est-à-dire que c'est des associations qui nous avaient, à l'époque, donc on est il y a 15 ans, hein, on est autour de 2002-2003, qui nous avaient missionné, Valérie et moi, pour faire un petit film pédagogique à destination des populations roms venant des pays de l'Est. Là, en l'espèce, c'était des roms de Roumanie, pour leur expliquer qu'en France, même si on n'a pas de papier, à l'époque, la Roumanie fait pas de partie de l'Europe, on peut quand même scolariser ses enfants. Et il y a pas mal de familles qui vont mendier avec les enfants, donc les associations y sont très sensibles. Elles se disent, on va faire de l'information à l'égard de ces familles, on va leur faire un petit film. Et ce sera une femme rome qui scolarise vraiment ses enfants, qui racontera à d'autres comment ça se passe. Donc on avait trouvé, les associations nous avaient aidé à trouver une famille qui serait d'accord, un terrain sur lequel ça se passait réellement. Et cette jeune femme, Salkoutsa, on l'avait rencontrée début des années 2000 et elle nous avait dit « Ok, pas de problème, elle parlait pas très bien français, là c'est touchant de la réentendre à la radio là dans cet extrait. » Parce que nous, dans le film, on avait même sous-titré tellement son français était balbutiant. Et donc on filmait, tout se passait plutôt bien, c'était un peu mise en scène, hein, c'est pour ça que c'est ce petit format en noir et blanc, cette femme qui explique comment se passe l'école en France. Et en plein milieu de notre tournage, ça fait 3 jours qu'on est là, la maman qui revient à l'école complètement apeurée en nous disant « Oulala, oulala, la police est sur le camp, l'expulsion va avoir lieu demain ou après-demain, je ne sais pas ». Alors avec Valérie, on a nos caméras et on se dit « Bon ben non, là on passe en cinéma direct, on arrête de travailler sur ce petit film et on filme le réel qui se déploie devant nos yeux à ce moment-là ».
Mais en même temps, ensuite, 15 ans plus tard, ou peut-être 13 ou 12, je ne sais pas, vous opérez un montage. Ouais. Et là, vous faites le choix de commencer comme ça.
Ah oui.
De commencer par l'école et l'expulsion, comme si c'était des motifs extrêmement importants dans le sujet que vous allez tenir comme ça pendant tout le film.
Ah oui, oui, bien sûr, parce que cette école, c'est le début de tout. C'est le début, c'est bien sûr nous, dans notre histoire, le début de notre rencontre avec Salkoutsa et ses deux enfants, Gabi et Denisa. C'est la rencontre avec la maîtresse, Madène Gerbin, qui est une femme incroyable, qui va chercher les enfants. Elle apprend qu'il y a un terrain de famille rome qui vient de s'installer dans la ville, pas de problème. C'est en bordure de forêt, pas de problème. Elle chausse ses bottes en caoutchouc parce que l'endroit était très boueux et elle y va. Et elle regarde. Est-ce qu'il y a des enfants parmi vous? Quel âge ont-ils? Ont-ils l'âge d'être scolarisés? Venez avec moi. Mais non, vous inquiétez pas, l'école c'est formidable. Et elle les ramène comme ça. Les parents sont un peu méfiants, ils savent pas. Beaucoup hésitent parce que beaucoup ont peur évidemment des expulsions qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Est-ce qu'ils retrouveront leurs enfants s'ils sont à l'école? Il y a vraiment ces peurs-là et elle les rassure. Elle est là, elle leur explique. Elle leur dit, vous inquiétez pas, on va travailler ensemble. La mairie, qui est la mairie d'Acher, donc à l'époque qui est dirigée par une équipe municipale communiste, les rassure aussi en disant « Écoutez, on a bien compris votre situation, on ne va pas demander l'expulsion, vous êtes là, vous demandez des titres de séjour, on va attendre, voir comment ça se passe pour vous, ne vous inquiétez pas ». Et là, on se retrouve devant une situation qu'on n'avait pas prévue, puisque c'est la préfecture qui va demander cette expulsion. Alors on est en 2003, hein, ça fait un an qu'il y a... un nouveau ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et qui avait demandé l'expulsion de tous les terrains d'Île-de-France. Donc là, on est le 5 mars 2003, la trêve hivernale vient de se terminer. L'expulsion est programmée pour le soir même, pour le lendemain. Donc pour nous, c'est branle-bas de combat. On se dit, ok, bon bah, on a des caméras, on va filmer. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire d'ailleurs de ce film. Mais on se dit, on filme. Et ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, qui est dans le film, c'est la suite, c'est-à-dire cette réunion à la mairie. 20h, la maîtresse, le maire, les associations se réunissent en disant « Qu'est-ce qu'on fait si les familles sont expulsées demain matin ?» Et là, avec Valérie, on va assister à quelque chose de... Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Enfin, c'est un moment magnifique parce que c'est un exercice de démocratie locale, de réappropriation du politique par le citoyen qui se passe sous nos yeux avec des élus, bien sûr, mais d'autres personnes, des anonymes, des citoyens, des associations, le curé. Le curé de la ville, donc on est vraiment dans Don Camillo, hein, le maire communiste et le curé, tout est là. Et puis ils réfléchissent ensemble. Ils prennent ce temps et ils se disent « Attendez, là on est avec des gens qui sont pas encore européens, mais ça ne saurait tarder. On va les renvoyer en Roumanie ? Ok, un mois plus tard, ils sont de retour. On va les expulser de ce terrain ? Ils vont aller sur le terrain d'à côté. C'est le maire d'à côté qui va avoir les mêmes questionnements que nous. Nous, ça fait 2 ans qu'ils sont là, on a commencé à travailler avec eux à l'école, donc à la scolarisation. Quand un enfant parle français, les parents parlent français pas très longtemps après. Ça, on le voit. Donc, c'est pour ça que l'école, c'est fondamental. Mais pour aller à l'école, il faut faire toute une démarche. C'est très compliqué. Il y a encore des mairies qui rechignent à scolariser les enfants sous prétexte qu'ils ne font pas partie de la commune, parce que le bidonville n'est pas officiellement... les habitants ne sont pas officiellement sur la commune. C'est abject. On se retrouve quand même avec des mairies qui font encore ça. Hein. Je le dis ici, c'est très, très, c'est très violent, parce qu'il y a d'autres maires qui se disent, évidemment, les gens sont sur ma commune. Les enfants, on les scolarise. Ils trouvent des places dans les écoles. Et les enfants ne demande que ça. On l'a vu dans je ne sais pas combien de terrains, on l'a vu ça, il y a beaucoup d'appréhension au début évidemment, mais une fois que les enfants ont été amenés petit à petit à comprendre ce que c'est que l'école, ça se passe toujours très bien.
Alors, comme vous le dites, on est en mars 2003 et le film va nous emmener sur des périodes ultra contemporaines, Anna Pitoun. Donc, on imagine deux femmes qui, très régulièrement, à partir de cet événement-là, ce basculement que vous filmez, hein, donc le camp est en effet démantelé, il y a des images très fortes de broyage de caravane, d'affrontement avec la police. Et puis ensuite, se déroule la vie. On va en parler. Vous avez travaillé avec combien d'heures de rush? Pendant combien de temps vous vous êtes dit on continue de filmer? Et comment est-ce que vous avez perpétuellement renouvelé le désir de regarder cette femme et ses enfants?
Alors, on a travaillé avec à peu près 250 heures de rush. On a eu la chance d'avoir un très grand monteur de cinéma qui s'appelle Fabrice Rouault, qui travaille autant sur des documentaires que sur des fictions. Qui est venu travailler avec nous, ce qui était important parce qu'effectivement pour travailler sur toute cette matière qu'on avait accumulée avec Valérie, évidemment au bout de 15 ans vous êtes très amis avec les gens que vous filmez et puis vous vous attachez à des images
et couper devient difficile.
Très difficile, heureusement ce monteur nous a dit non, il faut que ce film passe du statut, on pourrait dire, un peu de militant où il y avait beaucoup de politique à quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Il faut que vous puissiez raconter ça de manière plus émotionnelle, puisque c'est ce que vous avez vécu aussi. Donc, il a vraiment travaillé.
Il était quoi? Il était pour une pertinence militante ou il était pour une pertinence cinématographique?
Non, on était vraiment à l'endroit du cinéma. On a eu envie de cinéma, vraiment, avec ce documentaire. On avait fait un premier documentaire sur cette histoire qui s'appelait Caravane 55, qui était passé à la télévision, que les gens avaient beaucoup apprécié, qui était après devenu un outil un peu militant, parce que les gens projetaient ce film dans des cinémas, dans des collectifs de soutien, etc. Parce que ce film donnait à une matière, hein, les films c'est toujours des objets de pensée qui aident à réfléchir s'ils sont confrontés avec d'autres éléments comme la lecture, comme les débats, etc.
Parole, oui.
Exactement. Et donc là on avait envie de cinéma parce qu'on avait envie de toucher les gens à un autre endroit, pas forcément celui de l'intelligence, mais celui du sensible. On avait envie que les gens soient dans cette salle de cinéma. Donc le film est long, il fait 1h40. Tout le monde nous dit qu'on ne les voit pas passer parce que tout d'un coup, vous partagez l'histoire de cette famille et l'histoire de cette ville. Parce que comme on a coutume de dire avec Valérie, c'est un film sur les Roms, mais c'est aussi un film sur les Français.
C'est un film sur Achères.
Et sur cette petite
ville d'Achères.
Ah oui, oui. Oui, où on montre plein de choses en parallèle qui se déploient. Il y a un troisième parallèle qui est celui de la situation européenne. Donc on a voulu montrer je sais pas comment appeler ça, mais un peu la success story de Salle Coup de ça, parce que ça va de mieux en mieux, évidemment. Dès qu'elle a les papiers, le travail, le logement, ça y est, c'est formidable. On voit sa vie qui se déploie. On voit cette femme qui passe d'une certaine timidité à une forme d'émancipation politique. Donc, on a voulu montrer cette femme qui grandit, ses enfants qui grandissent, cette mairie, voir ce que ça implique au niveau local, la politique. Mais on a aussi voulu montrer l'horreur qui est en train de se produire en Europe. C'est-à-dire la fascisation, on ne voit pas comment appeler ça autrement, d'un certain nombre de propos qui se sont mis en place dans plein de démocraties européennes aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'images d'archives qui viennent ponctuer ce récit sur ce qu'on a vu à la télévision pendant toutes ces années. Aussi bien de nos gouvernements, de droite comme de gauche, hein, on a Sarkozy mais on a aussi Manuel Valls. Et puis au niveau européen, Orban, comment les choses se passent en Hongrie, en Roumanie, puisque Salle Coup de ça à un moment donné va prendre des vacances en Roumanie avec sa petite famille et on va les suivre. Donc voilà, on a déployé tout ça, ça faisait beaucoup beaucoup de matière. On a su quand est-ce qu'on commençait, on n'a pas su quand est-ce qu'on terminait. Il y a eu deux temps en fait dans la construction. Ce premier temps qui a été très fort, l'expulsion, la solidarité de la ville, qu'on a filmé, qu'on a vraiment laissé se déployer. Après, on a filmé un peu tous les ans. On revenait voir Salle Coup de ça, même 2-3 fois par an, parce qu'on venait aussi pour les anniversaires, les mariages, on était ensemble. On a ce choc de 2013, donc pile 10 ans après, l'expulsion où on a un ministre de l'Intérieur, un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'appelle Manuel Valls et qui va dire les Roms ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Ils ont vocation à retourner en Roumanie. C'est pour nous très dur, cette phrase. À l'époque, on travaille avec pas mal de gens de gauche dans les mairies, des gens du Parti Socialiste qui vont se sentir trahis, qui vont se dire « Oula, c'est notre camp ». C'est notre camp qui dit ça, c'est dur là, c'est très dur. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit « les Roms ». Les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer. Bon, bah, je veux bien qu'on dise « monsieur machin n'a pas vocation à s'intégrer, vraiment il n'y met pas de son... il n'y met pas du sien, madame bidule ». Mais « les Roms », raisonner en universaux, mais pourquoi pas les Juifs, pourquoi pas les Noirs. Enfin, c'était extrêmement violent, donc on s'est dit « non, vraiment là, nous on a quelqu'un qui s'est intégré, on a ces images pendant 10 ans, donc on va faire quelque chose, on va projeter ce film ». Et donc on décide de faire tout un travail pour qu'il y ait une matière qui puisse se déployer. On décide d'aller en Roumanie, on décide de suivre Salcuța. Et puis tout allait bien, on avait fini le film parce qu'on avait l'impression d'avoir cette matière qui pouvait donner à entendre cette intégration, comment elle s'était déployée. Et on était en montage, on avait fini le tournage et puis il y a eu l'incident de la fin, mais je le raconte pas. Hein.
Non.
Il y a eu l'incident de la fin qui nous a semblé tellement révélateur de cette phrase. Hein, quand c'est fini, bah c'est pas fini. Hein, quand on croit que c'est gagné, bah.
Mais il y a pas que ça. On y reviendra à Napitoul. Mais moi, je trouve que c'est pas que ce seul incident de la fin n'est pas le seul indice qui dit que vous ne filmez pas avec Valérie Mitto uniquement la success story d'une femme. Vous filmez quand même quelque chose qui plane et qui continue de planer malgré sa réussite, malgré son apprentissage du français, malgré les papiers, malgré son installation dans des endroits. Voilà, il y a quelques grincements néanmoins. Mais puisqu'on parle cinéma, on va continuer d'en parler.
Je me suis mis à m'approcher pour pouvoir prendre le son. Et puis j'avais un casque, chose assez rare, puisque d'ordinaire... un caméraman n'a pas un casque. Donc je me suis mis à écouter. Et je me suis mis même à plus écouter qu'à filmer. Parce que je me suis dit, si tu veux faire des belles images, bon, tu prends ton appareil photo. Donc je me suis mis à filmer, à écouter, à filmer le son. Et puis je me suis aperçu que si je bougeais, on écoutait moins. Parce qu'on était distrait. Et puis c'est vrai que je commençais à lire des interviews comme ça dans les cahiers du cinéma, où Leacock disait « je prends des photographes parce que les photographes ils s'intéressent pas à leurs panneaux, alors c'est pas des bons caméramans et c'est ça qui est intéressant ». Je me suis dit « mais je suis comme ça moi je suis mauvais, je suis pas un bon caméraman, bon je sais pas faire des plans, des panneaux ». Donc ça m'a fait plaisir. Et puis je me suis aperçu finalement que de suivre l'actualité, c'était pas ça qui était intéressant, c'était de faire des sujets. C'est de rester dans un commissariat, de faire un homme politique, de rester dans un lieu et de plus y bouger et puis de construire un film comme ça. À la bonne distance, sur la durée, et laisser les gens s'exprimer. Et puis de dégager l'écoute. Ça, c'est ma grande théorie. C'est-à-dire que si tu bouges, tu dégages pas l'écoute. Parce que tu perturbes l'écoute. Donc ce qui est important, c'est l'écoute. Ces gens parlent, ils ont une façon de parler. Souvent, ces gens-là sont dans des situations dramatiques. Effectivement, on peut me reprocher que c'était facile de faire ces films-là parce que j'étais dans des situations dramatiques. Pas du tout. Parce que moi, j'ai passé du temps, un temps fou à faire ces films. Et je sais qu'en fait, c'est très ingrat, c'est long, il faut attendre. Et il faut aussi avoir confiance en l'image.
Il faut attendre et dégager l'écoute. C'est une archive de 2006. On entend ici Raymond Depardon au micro de Christian Cojol dans un Avoir Nu diffusé sur France Culture à Napitoun. Plusieurs choses. Qu'est-ce que vous comprenez quand il dit « il faut ne plus bouger et dégager l'écoute et filmer ce qu'on entend ».
Ah là là. Bah c'est magnifique, hein, il le dit très très bien. C'est-à-dire que le documentaire, c'est une relation. Hein, au-delà d'un cadre, au-delà d'une histoire, au-delà d'un message, c'est une relation que vous vous mettez à entretenir avec la personne que vous filmez. C'est un contrat de confiance tacite, tout d'un coup. Il va vous falloir, à vous, en tant que réalisateur, avoir un certain talent pour pouvoir redonner à entendre ce qui vous a été livré, des fois dans des conditions difficiles, des fois dans des conditions avec beaucoup de pudeur par la personne qui est là, il va falloir que vous ne trahissiez pas cet endroit-là. Et donc, il vous faut écouter avec tous vos pores, ouvrir vos oreilles, vos yeux, votre cœur. C'est comme ça que vraiment on filme, hein, quand on est... En plus, avec Valérie, on est une petite équipe. On filme toutes les deux, on se passant la caméra, parce que tout d'un coup, la personne, on sent qu'elle a envie de parler à l'une ou à l'autre, donc l'autre se met à filmer. Des fois, on filme et on interviewe en même temps. On est vraiment dans quelque chose qui part du cœur. D'ailleurs, avec ces caméras aujourd'hui, on peut les mettre un peu au milieu de soi-même et avoir un écran qui se tourne, pas forcément avoir l'œil dans l'œilleton. Et donc, je suis très touchée d'entendre Raymond Depardon, parce que c'est cet endroit-là, c'est-à-dire le son, le silence, le rythme de la parole. Et c'est quelque chose que vous allez devoir évidemment mettre dans un écran et reconstituer et redonner au montage. Au montage, il y a encore un autre exercice qui se met en place, qui est celui de pouvoir couper une parole, pouvoir éclater des idées pour mieux les donner à entendre. Et là aussi, le rythme, le son, c'est quelque chose qui va être fondamental. Vous entendez une parole, elle est très forte, ok, alors on va l'arrêter, on va mettre du silence. On va la laisser résonner. Et au tournage, bien sûr, bah c'est ça, c'est cet endroit-là de relation, de grand respect de la personne que vous filmez, pour donner à entendre au mieux ce qu'elle a essayé de vous confier. Parce que la personne, elle parle avec plein de choses, hein, elle parle avec son attitude physique, il y a même d'autres choses qui viennent parler pour elle. Alors là, on va tomber dans un rapport mystique, mais vous avez un rayon de soleil qui va venir éclairer son visage à ce moment-là, ça veut dire quelque chose. Il se passe quelque chose dans le cadre à ce moment-là. Il va falloir le restituer. Donc c'est une écoute. Filmer, c'est écouter avant de regarder, je crois.
Raymond Depardon dit « Parfois, on a pu me reprocher ou croire qu'il était facile de faire les films que j'ai faits parce que j'étais dans des situations critiques, parce que j'étais dans des situations tendues et que d'une certaine manière, je n'avais qu'à... » enregistrer ça. A contrario, il affirme, ce sont des choses ingrates. C'est une pratique ingrate. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Anna Pitoun, concernant 8 Avenue Lénine ? Est-ce que c'est un film facile à faire ?
C'est un film qui est... comment on va dire ? Facile à faire, non. Enfin, c'était compliqué d'être au tournage à certains moments parce que quand on voit l'expulsion, effectivement, on entend les policiers qui nous disent « Madame, arrêtez de filmer ». On voit les gens être poussés. On a presque envie de participer à l'événement nous-mêmes, hein, de se dire comment je me mets, comment je fais passer quelqu'un ou pas. Ça a été le cas, hein, à un moment donné, quand la police vient dans l'école, c'est vrai, j'ai pas honte de le dire, on fait en sorte qu'elle ne voit pas tous les enfants. Donc notre corps vient, travaille dans ce tournage-là. Donc il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles du tout, des moments beaucoup plus faciles, hein, les fêtes, les mariages. D'ailleurs on voit, hein, les images sont un peu différentes parce qu'on participe nous-mêmes à cette fête. Donc mais ce tournage-là, il a été facile parce que ça le coûte ça aussi a été extraordinaire. C'est-à-dire que de se livrer pendant 15 ans. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui accepteraient ça, d'être filmée régulièrement pendant 15 ans. Elle l'a accepté parce qu'elle s'est dit peut-être que ça peut faire changer le regard. Et elle est tellement... quand elle entend, hein, les Roms sont tous des voleurs, les Roms sont tous des mendiants, les Roms ne veulent pas travailler. Elle en souffre tellement. Elle nous dit, Anna, Valérie, mais pourquoi cette image? Pourquoi tout le temps cette peur de nous? Elle a des réponses, hein, bien sûr, elle n'est pas du tout naïve, mais elle a dit, si le film peut amener un autre regard, alors oui. Donc le tournage était toujours très bienveillant. On arrivait, on a bu des centaines de cafés, hein, on a mangé des centaines de sarmalés, parce que voilà, les gens sont dans une hospitalité incroyable. Donc on était, c'était toujours très fort d'être ensemble. Et le montage a été plus complexe, parce que rendre compte de 15 ans de vie, ça a été compliqué.
Est-ce que le contrat dont vous parlez, et dont parle aussi Raymond Depardon à d'autres moments, est à la fois un contrat de vous avec Salkoutsa Filan, de vous deux réalisatrices, mais aussi en filigrane et de manière peut-être plus silencieuse, un contrat de Salkoutsa Filan avec sa famille de premier abord, et peut-être aussi une forme de communauté rome de Roumanie dont elle deviendrait l'espace d'un film, même sur 15 ans, une forme, j'utilise beaucoup de guillemets, mais de porte-parole. Est-ce qu'il y a un contrat qui peut-être là aussi vous dépasse et n'est pas forcément facile à négocier pour elle ?
C'est très complexe. Là, vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose de très important, c'est que les Roms prennent pas beaucoup la parole parce que justement, ils sont dans ce respect de dire « je ne peux pas parler pour les autres ». C'est compliqué la représentation, être représentant rom ou élu chez les Roms, parce qu'il y a quelque chose que nous on a vu à plusieurs reprises. Je peux pas parler pour les autres, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc elle faisait très attention, il y avait beaucoup de précautions.
Ce qui entre parenthèses va complètement à rebours de la propagande qui dit les Roms. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est très différent.
Ah oui, oui, oui. Et vous employez ce mot à dessein, et nous on l'a employé aussi, hein, parce qu'il y a eu cette image qui a été véhiculée constamment, qui est véhiculée sur les Roms, alors qu'on est vraiment avec des gens qui sont très très respectueux de la parole de l'autre. Donc attention, si quelqu'un te dit ça, il te dit ça à toi. Moi, je peux peut-être dire autrement, donc écoute bien. Donc oui, il fallait faire très attention. Et d'ailleurs, au montage avec Valérie, on s'est beaucoup arrêté pour lire, pour consulter des gens. On a consulté notamment l'historienne Henriette Asseo. On a beaucoup parlé avec des gens qui vivaient un peu la même expérience que nous, notamment Dominique Simoneau, qui est journaliste au Canard Enchaîné et qui a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Amadora, une enfance tzigane. Donc on se parlait les uns les autres. On disait, tu observes ça toi aussi? Oui. On se disait, quand on emploie ce mot là maintenant de propagande, c'est parce que on avait ce sentiment terrible de se dire, mais attendez, on est tous en train de remarquer la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de vivre absolument normalement. On est en face d'une immigration qui est tout à fait normale, comme celle des Italiens, celle des Portugais, des Espagnols en leur temps.
Des Polonais, des Maghrébins, etc., etc.
Exactement. Là, on est avec des Roumains qui ne font que exercer leur droit à la libre circulation en Europe, hein. On entend beaucoup le terme de Roms migrants, comme si on parlait d'Afghans ou de Syriens, pour lesquels il y a des problématiques très différentes. Les Roms de Roumanie ne sont pas des migrants. Quand vous croisez un Belge en France, vous ne dites pas « Oh tiens, un Belge migrant ». Donc, c'était pour nous, il fallait faire attention à tout ce qui se racontait, parce que on parle... Alors, ce film, on dit effectivement que ça parle des Roms. Bon, ça parle de Salkut Sachilan et de sa famille. Il y a beaucoup de choses sur ce qui s'est dit sur les Roms, comme on dit. Donc, on faisait très, très attention à ça. Faire attention à pas trahir. Salkut Sachilan nous a livré des moments très intimes dans sa famille. Donc, on avait aussi un contrat très clair, pas écrit, mais moral, de dire, Salkut Sachilan, une fois que le film est fini, on te le montre, pour que tu nous dises si c'est pas trop difficile pour toi de livrer tout ça. Elle a pas enlevé une seconde ni une image du film, hein, quand elle l'a vu. Elle était très très touchée. Mais on lui a montré, bien sûr. Parce que on tenait à ça aussi, à son accord. On l'a montré à la maîtresse, on l'a montré aux gens. Non pas pour avoir un aval, mais pour avoir un sentiment. Parce que de livrer autant de choses des gens sur autant d'années, c'est complexe. Donc voilà, les gens ils disaient oui, c'est bon, c'est bien ce que j'ai voulu dire à l'époque. Vous l'avez bien restitué. Donc voilà. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Anna Pitoun.
Give you a little beat. Got a lazy swim, feeling dead in the sack. And got a woman who's taking an ammonia behind your back. Will you just help yourself? Got my going on inside. Got no money, got no style. Don't waste your time, you got a lot to find. You gotta leave you behind. And you just help yourself.
consiste non pas à essayer d'affirmer mon point de vue, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est mon point de vue, et le livre montre que le point de vue que j'avais en 95 et la façon de les photographier dans ces années-là n'a plus rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc la question n'est pas tant de savoir de quelle façon je vais les photographier, mais plutôt l'histoire qui sera racontée à partir des photographies que je peux faire ou dont je peux me saisir. C'est-à-dire que dans ce livre, on retrouve aussi des photographies qu'ils ont réalisées pendant les 10 ans où on n'était pas ensemble. Donc, je pense que la photographie est un art qui apprend la modestie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on ne peut rien faire sans le monde que l'on a en face de soi. Et que si ce monde-là, en l'occurrence les Gorgans pour moi, à un moment décide de refuser d'être photographié, eh bien, je n'existe plus comme photographe. Donc voilà, moi je pense qu'après, toute la complexité, c'est que à partir du moment où eux acceptent, comment je peux les photographier. Et je pense qu'une des choses qui était importante dans ce travail, c'était précisément de se dire qu'il n'y avait pas une façon de les montrer, et que la façon la plus juste de le faire serait peut-être de démultiplier les regards et de dire que ils ont bien souvent été réduits à une espèce de caricature de photographie. Enfin, ils ont bien souvent subi des archétypes de gens bien différents. Ça peut être des photographes bien intentionnés qui vont photographier le folklore gitan ou autrement la misère sociale, mais tout comme ça peut être aussi l'archétype de la photographie judiciaire, policière, dans lesquelles on les retrouve bien souvent. Donc moi, je me suis dit qu'en fait, il fallait peut-être essayer de démultiplier les regards et surtout d'intégrer le leur pour finalement produire une forme de normalité, c'est-à-dire que l'on retrouve dans cet ouvrage-là aussi des choses qui nous concernent, nous tous. Nous, quand je dis nous, ce sont les gadgets, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas ziganes, mais dans lequel finalement on retrouve simplement cette idée du temps qui passe, des corps qui se transforment, du visage marqué, alors d'autant plus chez eux, 20 ans de leur vie, ça n'est pas la même chose que chez nous, mais simplement de convoquer une forme de normalité, même si elle se fait à partir de personnages qui, eux, effectivement, sont quand même extraordinaires dans leur capacité d'incarner l'image, de résister au regard que l'on porte et de nous emmener ailleurs.
C'est la voix du photographe Mathieu Pernot qui, pendant de très longues années et encore aujourd'hui, a photographié la famille Gorgan. Il dit beaucoup de choses, Mathieu Pernot. Peut-être la première chose sur laquelle je voudrais vous faire réagir, Anna Pitoun, c'est l'évolution du point de vue. Il dit au tout début, moi, quand je photographie ces familles, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes ou leurs parents, j'ai un point de vue qui, 20 ans plus tard, est très différent. Votre film court sur 15 ans. Est-ce que vous avez senti votre regard changer, ou bien sur Salkoutsa Filan, ou bien sur toutes les personnes que vous filmiez?
Oui, bien sûr. Oui. Pour nous, on était à l'endroit de l'émerveillement, en fait. Parce que il n'y a pas une très grosse surprise. Hein. On savait déjà que c'était des êtres humains avant, qui est un peu le message qui est triste à dire, mais qu'on essaye de faire passer, puisqu'on a entendu tellement d'horreurs sur les Roms qu'on était vraiment à cet endroit-là. Donc de filmer la normalité, filmer... alors. Peut-être à la différence de ce travail qui est fait sur les Gorgans, comme il en parle, effectivement, on n'était pas du tout comme d'autres photographes ou réalisateurs à l'endroit du folklore, même si on a quelques petits moments où on pose des questions au niveau culturel, sur quand Gabi nous dit « Oui, je me suis mariée à 19 ans parce que tu sais, il faut que les filles soient vierges », et on lui dit un peu naïvement « Et les garçons aussi, ils sont vierges ?» Donc voilà, on a travaillé un tout petit peu sur ces questions culturelles, mais très très peu, nous, l'idée, c'était vraiment être à l'endroit du droit commun, quoi. De dire, voilà, ces personnes ne demandent pas à avoir un statut exceptionnel, elles demandent à entrer dans le droit commun, comme n'importe quel citoyen européen. Donc on était vraiment à cet endroit-là depuis le début, et on n'a pas bougé de cet endroit-là, puisque c'était une volonté politique, intellectuelle, forte, et qui nous semble être la bonne encore aujourd'hui. Mais notre regard, il change évidemment. C'est-à-dire que Salkoutsa que l'on rencontre dans une grande précarité, qui est là, qui essaye, comme elle peut, de nous parler en français avec les quelques mots qu'elle a. 15 ans après, elle nous parle super bien. Elle nous explique pourquoi le syndicalisme, c'est important. Elle nous explique comment elle a rencontré la CGT dans son travail, comment elle va, quand elle est à sa pause avec ses collègues de travail, comment il faudrait œuvrer à l'égard du maire, est-ce qu'il faut plutôt agir comme ci, comme ça. Enfin, c'était incroyable. On a vécu ça en direct, l'émancipation politique d'une femme. Donc, oui, on a été qu'émerveillés. Et quand on a procédé au montage du film et qu'on retournait dans les rushs d'il y a 15 ans, on avait cette tendresse incroyable. Oui, voilà, heureusement que notre monteur, Fabrice Rouault, était là pour nous dire « Calmez-vous, n'oubliez pas la perspective qu'on a devant nous. » Mais c'était très, très fort de voir ça, cette évolution.
Et par conséquent, vous filmez aussi l'évolution du regard des personnes qui entourent Salkoutsa Filane et sa famille au moment de la grande précarité en 2003 et puis dans d'autres situations, 5, 10, 15 ans plus tard. Et là, je pense que ce serait assez intéressant, Anna Pitoun, qu'on discute de la manière dont à la fois ce regard bouge, évidemment, puisqu'ils n'ont pas la même femme en face d'eux, et en même temps, il y a des scories du premier regard qu'ils ont pu poser sur elle. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi parce que votre film n'épargne pas l'interrogation de la mobilisation politique, de la mobilisation citoyenne, d'un regard formaté et construit socialement sur les Roms de Roumanie. Et il y a des scènes qui sont à la fois maladroites mais très belles de vérité. Dans une discussion où justement elle fait mention, Salkoutsa Filane, de l'émancipation politique, de sa parole, de propos qu'elle a pu tenir à la douane, dans son voyage, et qu'on lui oppose, ça c'est grâce à nous. Ça c'est nous qui te l'avons appris. Et d'un seul coup je me dis, ben, garder ça au montage, c'est aussi dire quelque chose. Ce serait quoi?
On a beaucoup hésité, c'est marrant que vous pointiez ça, parce qu'effectivement...
C'est pas le seul moment.
Non, il y en a d'autres. On les a laissés exprès. On n'y coupe pas. Il y a une forme de paternalisme. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec toutes les personnes qui sont intervenues dans toute cette histoire. Il y a une forme de paternalisme qui est là, qui dit nos Roms, nos amis Roms. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est grâce à nous. On a bien fait de se battre parce que t'as vu, on marie ta fille ce soir, etc., etc.
Oui, il y a de l'autocongratulation. On l'a laissé au montage, tout ça, parce que on a laissé ces petites phrases parce que ça raconte... c'est compliqué d'intervenir comme ça auprès des gens. L'une des choses les plus fortes qu'on ait entendues, c'est un jour une militante qui nous disait c'est très compliqué d'emmener les enfants à l'école parce qu'ils sont dans la forêt, il n'y a pas l'électricité dans la forêt, évidemment, donc ils s'étaient cotisés pour donner des lampes de poche, des réveils pour que les enfants soient là, et puis il y avait certains militants qui disaient, des fois ils ne se réveillent pas, donc on va taper à la caravane à 7h du matin, à la porte de la caravane, on apporte des petites lingettes pour leur faire une toilette sommaire, des pains au chocolat, mais des fois on est au moment de taper, on se dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien? Nous, on est là avec notre vie. On vient, on les réveille. On ne sait pas à quelle heure ils se sont couchés. Pourquoi ils ne se réveillent pas ce matin? Et on tape quand même à la porte de la caravane en disant « Allez, il faut emmener les enfants. On est là, on a les voitures. » Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bonne volonté, évidemment, qui est de l'ordre de la bienveillance. C'est indéniable.
Et ce que montre le film. Je veux dire, mon propos là n'est pas d'évaluer à aucun moment cet engagement-là, qui est un engagement extrêmement concret, physique quand il le faut, tenace sur les années, etc. Mais de dire... C'est compliqué.
C'est très compliqué. Et c'est vrai que ces petits moments où certains personnages sont très fiers, hein, disent « Ah, ben on a bien fait, hein, ça montre bien que... » Oui, il y a du paternalisme, il y a de l'autocongratulation, il y a de la fierté, il y a... Et en même temps, ça le coûte ça, c'est ça qui est marrant, parce qu'elle y répond très volontiers en disant « Oui, c'est vrai que c'est grâce à vous. » Et elle n'arrête pas de le dire elle-même en disant oh, « Mais si vous aviez pas été là... » Parce que, vous savez, on les a laissés aussi pour dire une chose. C'est vrai que, plutôt que ce soit chez les militants, c'est vrai que c'est surtout les élus qui sont dans ce discours-là. Mais on l'a laissé parce que cette volonté politique en France, elle a été très rare. Les élus qui se sont engagés en disant « Attendez, là, on est juste dans de l'absurde. Ces gens-là vont revenir. » Ça a été très rare. Et que ce soit le maire d'Achères, Alain Outremann, que ce soit à Gardanne, le maire Robert May, qui a fait ces démarches-là, on les a laissés parce que c'est d'un courage politique incroyable. Le maire, il aurait pu perdre sa mairie. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens, hein, des élus qui lui disaient « Ah bah dis donc, t'es courageux, tu crois que tes électeurs vont te le pardonner, ça ? D'offrir un petit terrain alors qu'il y a des Français qui n'ont pas d'endroit où vivre et où habiter ? On ne te le pardonnera pas, ça. »
Et d'ailleurs, la défaite politique plus tard est assez amère, parce que quand il se voit tenu d'annoncer son remplacement à la mairie... par un homme qui dit les choses vont changer et on sent que la direction qui va être prise ne sera pas une direction vers l'ouverture. Le lien n'est pas fait directement avec les choix qui ont été faits vers l'accueil de ces familles roms de Roumanie, mais néanmoins, ça peut avoir un rapport. Donc on montre ça, y compris la figure de l'institutrice ou de la maîtresse d'école. En fait, s'il y a quelque chose d'assez intéressant sur... Peut-être même de manière générale, si on s'élève un peu sur l'imbrication entre un engagement politique très fort et une existence. Ce que montre ce film, c'est que c'est très difficile de les dissocier. Et que cette femme-là, elle ne sera pas que militante politique, elle sera aussi un peu... Il y a un lien filial, il y a un lien d'éducation, et que c'est difficile de démêler tout ça.
Mmh. Oui, après, elle se démarque, hein, ça le coûte ça. Maintenant, elle prend aussi un peu des positions en disant ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Il y a une scène qu'on n'a pas pu mettre, qui était assez... vraiment drôle, c'est quand elles sortent de la maternité, donc la maîtresse a accompagné Salkoutsa pour voir son petit-fils qui vient de naître, Gabi.
Quel niveau d'intimité !
Oui, c'est très mignon parce que Gabi vient de mettre son deuxième enfant au monde. La maîtresse emmène Salkoutsa qui a pas de voiture à la maternité, on est toutes ensemble, on rigole, c'est très très joyeux. Et après, c'est bientôt les vacances, donc on est dans la voiture et la maîtresse dit à Salkoutsa « Mais qu'est-ce que tu fais alors cet été ?» Et Salkoutsa dit « Bah ça y est, la maison en Roumanie est presque prête, on va pouvoir y aller. » Et là, la maîtresse, mais quoi? Mais Salka, tu as mis de l'argent de côté pour aller te faire construire une maison en Roumanie? Mais pourquoi tu l'as pas fait construire ici, ta maison? Alors, elle lui a expliqué que les prix étaient pas les mêmes, donc ça c'était... Mais sinon, il y avait une espèce de... Mais Salka, reste plutôt en France, visite la France, etc. Et c'était très drôle parce que Salkoutsa lui a dit non. Non, madame, non, on a besoin de retourner chez nous. Même si c'est 3 semaines, même si c'est 1 mois, on a besoin. Donc voilà, elle a affirmé cette voix qui est un peu différente de celle qu'on attendrait d'elle en disant tu t'es intégrée en France, bah tu vis en France. Donc il y a quand même une position qui se prend au fur et à mesure. Mais vous savez, pendant toutes ces années, Salkoutsa, elle n'a eu que ces gens-là comme amis. Elle leur en était mais tellement reconnaissante. C'était incroyable les risques qu'ils ont pris. La maîtresse qui a caché des enfants, elle a pris des risques professionnels. Le maire a pris des risques, tout le monde. Donc on sait quand même... elle est vraiment... Elle dit « Ah, cher, c'est ma famille. Ce maire, cette maîtresse, c'est mon père et ma mère. » Donc elle est à cet endroit de dire « Oui, c'est grâce à vous. » Et ça, je vais le dire haut et fort. Parce que si, c'est en ça que nous, on dit que ce film est aussi un film sur les Français. Parce qu'on nous dit « La France est raciste, la France est ceci. » Eh ben oui, mais non. Nous, on a fait le tour de France depuis un an avec Valérie. On rencontre des gens qui, de manière très discrète, font des tas de choses, s'engagent, sont vraiment en dehors de l'endroit du spectacle de la politique, qui voudrait dire les expulsions règlent tout. Non, ils disent non, ça règle rien, les amis, donc calmez-vous. Nous, on va faire les choses dans notre coin. Hein.
D'ailleurs, cette espèce de dissonance des discours ou des ambiances, si je pourrais dire, Anna Pitounz, vous le mettez en scène en diffusant des extraits assez excités de discours médiatiques, Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen, etc. Et des images extrêmement quotidiennes de la vie de femmes, d'hommes, d'enfants, plus ou moins jeunes, comme pour dire « Attention, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se détache complètement du réel, là. »
Ouais. Et c'est inquiétant. C'est à la fois formidable, parce que effectivement le réel, le quotidien, il a sa réponse, le local, il a sa réponse, même si les hommes politiques ou certains responsables vont crier haut et fort « On va faire ceci, on va faire cela !» La population, elle continue à travailler dans son coin, à faire les choses.
Mais donc, ça circule et ça infuse.
Mais d'une part, ça circule et ça infuse. Donc vous avez raison, il y a quelque chose qui est qui quand même est très compliqué à vivre au quotidien, d'avoir Salkoutsa quand elle met. Vous avez vu France Info au petit matin à 5h du matin, parce qu'elle va faire les ménages dans les écoles, donc elle est debout à 5h du matin et qu'elle entend. Oui, mais ces gens-là ne veulent pas travailler. C'est extrêmement violent. Mais donc ça infuse, c'est très violent. Elle le vit, mais en même temps, d'autres ne sont pas dupes. En France, d'autres populations ne sont pas dupes. Et donc, tous ces discours qui sont proclamés haut et fort, oui, bah, qu'on les proclame. La France, il y a quelque chose de résistant, hein. On va quand même chez des gens qui résistent à certains endroits. Combien de temps ils vont résister? Ça, c'est une autre question. Est-ce que nos sociétés vont résister à ce déferlement, de grandes idées assez violentes qu'on nous propose d'avoir dans la tête? Je ne sais pas combien de temps on va résister, mais il y a des gens qui résistent. Et là, on a fait une projection qui nous a beaucoup, beaucoup émus, parce qu'une dame a pris la parole dans la salle en disant « Écoutez, je suis très touchée de voir ce film parce que moi, je travaille à la CAF. Je suis chargée de distribuer les allocations aux gens et on nous pressurise de plus en plus. On nous demande de plus en plus d'avoir des résultats. Un tel, ah bah, il doit avoir retrouvé du travail en 6 mois. Madame Machin, oh bah, dis donc, elle parle toujours pas français. Cette personne qui est toxicomane, elle se drogue encore ou pas ?» Et dans votre film, on voit le temps que prennent les choses dans le réel. 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'intégration, ça se fait pas parce qu'on vous a donné un papier ou un logement, non. Donc ce temps-là qu'on a nous eu la chance de pouvoir donner à entendre et à voir, s'il se déploie, les choses sont possibles. si on est dans un discours qui dit il faut que ce soit fait en temps et en heure et qu'on réduise les délais, enfin je veux dire quand il y a eu cette levée de bouclier par rapport à la loi asile immigration qui disait bah les étrangers ils avaient 2 mois pour présenter leur dossier, ils vont le présenter en 1 mois.
D'ailleurs, oui, le film le dit, hein, c'est une manière d'acculer d'une certaine manière de mettre contre le mur.
C'est ne pas connaître la réalité quotidienne des gens.
Ce retour en Roumanie que vous filmez, qui est un retour momentané, il est aussi un temps pour inscrire l'histoire de la famille que vous filmez dans une histoire plus large, plus grande, des Roms, de Roumanie et d'ailleurs. Et on va entendre une archive tirée de l'émission Tout un monde diffusée en 2010. C'est un reportage d'Éléonore Clovis sur une famille qui s'appelle Lakatos.
La société nous a toujours isolés. Aujourd'hui, comme dans le passé. Elle a isolé nos ancêtres et elle continuera de nous isoler.
N'ai permisiune la școli, n'ai permisiune în licee. În momentul când
en Roumanie, on ne nous permet pas d'aller à l'école, on ne nous permet pas d'aller au lycée.
La școală românească, ca să se
integreze. Si mes enfants vont à l'école pour essayer de s'intégrer aux enfants roumains ou aux enfants d'une autre nationalité, on les regarde toujours de haut, on les insulte. Vous, les tziganes, vous puez, allez-vous-en. Et à force d'être regardés comme ça depuis des siècles, nous avons fini par nous mettre en retrait. C'est à ça qu'on nous a obligés, nous et nos ancêtres, à nous retirer de la société, à en être réduits à mendier dans le métro, dans la rue, parce qu'on nous a privés de notre destin et de notre avenir. Nous, personnellement, nous venons de la région de Cluj. Mais c'est partout le même traitement en Roumanie. En théorie, nous ne sommes absolument pas rejetés. En théorie. Mais en pratique, il n'existe pas de loi pour nous, dans notre propre pays, là où nous sommes nés.
Privilégiés de legile țării în care ne-am născut, pentru că suntem cetățeni români.
Et parce que nous sommes citoyens roumains, nous avons un passeport roumain et une carte d'identité roumaine.
Ce se întâmplă? Nu toți romii au dreptul la pământ.
Tous les Roms n'ont pas le droit à acheter la terre. Ils n'y ont pas accès simplement parce que leurs ancêtres eux-mêmes n'avaient pas de terre et parce qu'ils étaient esclaves.
Strămoșilor n-au avut pământ, pentru că au fost slavi.
Comment est-ce qu'un esclave pourrait avoir une terre? Alors que si on a une terre, on a aussi une maison. Mon grand-père, par exemple, il a eu un peu de terrain, et c'est là-bas que se sont réunies toutes les générations de notre famille. La terre, c'est la colonne vertébrale de la nation.
Ce qui fait vraiment référence à des extraits de votre film Anna Pitoun, ici c'est un reportage d'Éléonore Clovis diffusé en 2010 sur France Culture. Ce moment en Roumanie, c'est une sorte de dézoom à plein d'endroits. D'un seul coup, ce n'est plus seulement, même si ce sont eux vraiment, hein, la famille de Salcuțar, mais ce sont aussi de manière générale le statut des Roms en Roumanie, par exemple, que vous attrapez au hasard de 2 vieilles dames qui, devant le portail de leur maison, vous livrent comme ça leur point de vue sur la question. Et donc, vous disiez tout à l'heure, on est dans l'absurde concernant la politique française, mais là, vous faites un renvoi très bref à l'histoire absurde de l'exclusion.
Là, vous faites référence à cette séquence et c'est vrai que pour nous, ça a été doublement fort et même violent parce que ces petites mamies ont l'air fort sympathiques. Elles nous proposent elles nous voient filmer, donc elles appellent Valérie. Elles disent, mais nous
qu'on
aussi,
nous voit aussi en France.
Voilà, qu'on nous voit aussi en France. Et Valérie ne parle pas roumain, donc elle les filme volontiers. Voilà. Et ce n'est qu'en France, quand on va traduire avec un traducteur roumain leurs propos, qu'on va apprendre la claque que le spectateur prend, hein, quand il regarde le film, parce qu'elles sont elles sont très très contentes de venir nous parler. Et là, c'est un moment de
racisme
à l'état pur, en disant ah oui oui non mais franchement les tziganes, ah oui bah oui ils sont là pour les vacances maintenant, hein. Ah ben on est bien content parce que quand ils étaient là avant c'était pire. Heureusement qu'ils sont partis. C'est des voleurs, tous des voleurs. Hein, ça c'est bien. Enfin, et tout d'un coup il y a ce déferlement. Donc on avait filmé d'autres choses mais on n'a pas tout mis parce que ce moment est presque parfait pour résumer l'ambiance. C'était l'archive que vous avez donné à l'écoute là il y a quelques instants et voilà c'est quelque chose que nous on a entendu 1000 fois de la part des Roumains.
Avec une connaissance de toutes les familles ou individus roms que vous avez pu rencontrer de cette histoire, de l'inscription dans l'histoire de leur propre exclusion.
Ouais, qui est très violente parce que la Roumanie, donc le communisme, va sédentariser de force les Roms. Salcuța, par exemple, n'a jamais vécu en caravane. Elle a toujours vécu dans une petite maison en terre, très pauvrement. Il y a deux choses. Il y a l'élite rome va être massacrée, hein, les intellectuels, les artistes, tout ce qu'on veut. Mais le peuple, la classe pauvre, la classe moyenne, va pouvoir vivre sous le communisme. Et on a ce regret qu'on entend des fois dans la bouche de Salcuța, qu'on a laissé, hein, dans le film, où elle regrette l'époque de Ceausescu, parce qu'effectivement, il y avait de la terre. On pouvait travailler. Salcuța est allée à l'école. Tout le monde allait à l'école. C'était le communisme qui voulait que, effectivement, chaque enfant aille à l'école. Rome ou pas Rome. Chaque personne devait travailler. Rome ou pas Rome. Donc, elle a vécu dans quelque chose qui était possible. La chute de Ceausescu a donné, il n'y a pas eu de transition vraiment douce. Donc, on s'est retrouvé avec un capitalisme clair et net, une privatisation des terres auxquelles les Roms n'ont pas eu accès. Et ce départ des Roms dans les années 90 pour d'autres pays d'Europe, il se fait à cause de ça. Parce qu'il y a deux choses. Il y a beaucoup de racisme à l'égard des Roms. On leur dit, ah oui, vous regrettiez le communisme, hein. Ça vous embête, hein, que ce soit fini. Donc, il y a ce racisme-là. Et puis, il y a effectivement une précarité incroyable. Ce monsieur qui dit on est exclu tout le temps, nous on l'a vu. Et en 2003, quand à l'époque Nicolas Sarkozy fait ses aides au retour, il y a une association donc qui est Médecins du Monde et un photographe qui s'appelle David Delaporte qui dit ok, ben on rentre avec eux. Bien sûr, ok, rentrons, allons voir ce que ça donne. Ça a donné lieu à une exposition de photographies incroyable sur la pauvreté qui attendait ces familles-là, puisque pas de travail. Donc après, la situation des Roumains, elle est aussi très complexe. Et ces petites mamies dont on parle un peu avec amusement maintenant, c'est pas drôle du tout.
On le voit, elles vivent aussi dans un très grand dénuement. Et imagine sans pousser beaucoup plus le portail que la vie y est très dure. Mmh. Dans ce moment d'image, dans votre film, Anna Pitoun, il y a une image très forte. Où le Salcuța Filan est à l'arrière d'un camion et elle tient dans ses bras un petit garçon qui est son petit-fils. Et c'est un plan assez long où elle est muette, où son regard est tantôt face caméra, tantôt porté sur l'enfant, tantôt dans le vague. Et qui est vraiment une sorte d'image absolue de l'exil. Mmh. Alors que c'est pas ce qui se passe à ce moment-là pour elle. Ouais. Mais c'est comme si en la filmant, vous disiez... Il y a quelque chose qui se perpétue et comment on l'arrête, quoi.
Ah oui, comme vous disiez, donc ce moment fait suite à un moment délicieux qui est la baignade dans le Danube. Elle est avec son petit-fils, ils sont en vacances. Elle l'a emmené se baigner. C'est très beau, c'est très beau, très poétique. Et puis elle est dans ce camion à l'arrière, donc c'est la fatigue du soleil et de la baignade, mais en même temps elle lâche quelque chose. Elle lâche une autre fatigue. Et puis on la filme.
C'est vraiment l'image de.
Ah oui, ça
toutes
résume.
Les femmes
ça résume. C'est
qui
dingue.
Prennent la route avec des enfants dans des conditions et c'est vrai. Et là, quand je disais c'est un dézoom, c'est que c'est plus seulement les Roms de Roumanie. Enfin, je veux dire, aussi les femmes syriennes, érythréennes. Enfin, c'est toutes ces images-là.
C'est pour ça qu'on l'a laissée longuement avec ce rayon de soleil qui vient sur elle, parce que on l'a dit, on l'a redit, on le re-redit pour peut-être ceux qui en douteraient encore. On ne part pas de son pays de gaieté de cœur. Salcuța, quand elle s'en va, elle a une idée en tête, c'est donner un avenir à ses enfants. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'ai fait du droit et j'avais un professeur de stratégie politique qui nous disait « Vous n'empêcherez jamais quelqu'un de rejoindre sa tribu d'excellence. Si vous êtes en train de mourir de faim dans votre pays ou il y a des catastrophes climatiques dans votre pays, vous allez chercher à en sortir. » Quelles que soient les lois qui font barrage dans les pays en face, vous irez. Et Salcuța, on la filme à ce moment-là, et ça raconte effectivement, comme vous le dites, ce qui se passe dans le cœur et dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très fatigué, qui est en souffrance, mais qui est tenace et qui ira. Et donc, toutes les lois qu'on met en place aujourd'hui de manière... disons absurde, au mieux, criminelle, au pire, ne changeront rien. Vous n'empêcherez jamais quelqu'un de rejoindre sa tribu d'excellence. Vous n'empêcherez jamais quelqu'un d'essayer de tenter de vivre mieux ailleurs, de sauver sa peau, de sauver celle de ses enfants. Et si on ne pense pas ça, si on ne se le met pas dans le crâne de manière intellectuelle, sensible, diplomatique, enfin, je veux dire, on court à la catastrophe. Il y a quelque chose à penser dans les pays d'origine. Il y a quelque chose à penser de l'ordre systémique dans la société dans laquelle on vit. Si on ne fait pas ce choix dès maintenant, les choses, voilà, vont nous advenir comme dans des films catastrophes. Voilà, c'est
et
évident.
Vous avez pensé à Anna Pitoun et Valérie Mito, votre co-réalisatrice, cet objet, ce film, comme une des briques de notre possibilité de penser.
Alors, un peu pompeusement peut-être, mais oui, c'est
mais
vrai.
Mais non, mais pourquoi pas?
Comme un objet de pensée, ouais, comme un endroit où on pense ensemble. Le cinéma, ce moment collectif qu'on vit quand on se retrouve avec quelques personnes dans une salle, c'est un moment de communion intellectuelle extraordinaire. J'espère qu'on va le garder, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui font qu'on regarde les films tout seul chez soi. Ce moment du cinéma, ce moment du théâtre, ce moment de la, voilà, de la pensée collective, pour nous, il est fondamental, parce que on a besoin de réfléchir. Les choses sont compliquées. À aucun moment, et je pense que ce film ne fait pas l'économie de ça, à aucun moment on dit, écoutez, c'est facile d'accueillir les gens. Jamais, jamais, jamais. C'est compliqué, mais comment on peut le penser au moins? Donc ce film, il sert avec d'autres éléments, avec les émissions de radio, avec les émissions de télévision, avec plein d'autres choses à réfléchir ensemble. On a besoin d'être ensemble et pas les uns contre les autres.
8 avenue Lénine, c'est le titre de ce film co-réalisé Anna Pitoun avec Valérie Mito. Je l'ai dit tout à l'heure, il est en ce moment en promenade en France et en résidence dans certains cinémas qui ont... on va dire quoi, le courage d'encore distribuer des films de cette manière-là et de les montrer. Et on mettra tout ça sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On est tous des humains. On est tous une famille. Sauf qu'on parle pas la même langue, c'est tout. Moi, il faut qu'ils voient l'exemple de moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit que je vais faire. Ils m'ont donné la chance. Je suis arrivée. Là, je suis comme une Française. Je paye mes taxes, je paye tout. Je respecte les Français. Mon travail, je respecte. Mes enfants, pareil, ils étaient scolarisés. Mes petits-enfants, ils sont à l'école déjà. Mais c'est ça l'exemple. J'ai vu à la télé, à Saint-Denis, je crois, un terrain où il y avait les Roms. Ils l'ont cassé, pareil, où j'habitais, à Cher. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'ils ne leur donnent pas une chance. Ils ne leur laissent même pas dans les caravanes. Ils disent qu'ils puent, ils font que de saleté. On en a marre. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont accepté d'entrer dans la communauté européenne? Parce qu'ils ont le droit à rester en France. Avec une pièce d'identité roumaine, ils peuvent travailler en France.
Non, ça ne va pas mieux, parce que si, ça allait mieux. Il n'y avait pas encore autant des gens dans des caravanes. Il n'y avait pas autant d'expulsions encore. On ne parlait pas autant encore. Dans toutes les histoires, avec les Roms... Je ne sais pas, parce que du fois, j'ai réfléchi, je pense, je ne sais pas ce qui se passe. Qui c'est qui ne fait pas bien son travail? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
When my lifetime had just ended and my death had just...
Au son ce soir, c'était Pierrick Charles, à la réalisation Lise-Marie Barret. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr. Si vous aimez cette émission, il faut le dire autour de vous, puis il faut abonner les gens que vous aimez au podcast. C'est bientôt Noël, vous leur faites des cadeaux. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bac de Lièvre, Lou Quevauvillier et Marianne Chasseur qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Très belle soirée sur France Culture.
As if this body were the first I'd ever worn. I need straw for the straw of fire. I need hard earth for the plow. Don't ask me. It starts. always forget who we are. I'm going in.
Mm-hmm.